Chapitre 11. Seldon ne pouvait s'empêcher d'être ravi de la transformation des lieux. Les salles centrales du complexe abritant le projet s'étaient soudain remplies de couleurs et de lumières. Partout, des hologrammes présentaient des images tridimensionnelles animées de Seldon en divers lieux et diverses époques. On y voyait Dors Venabili, souriante, l'air légèrement plus jeune. Reich sous les traits d'un adolescent encore mal dégrossi. Seldon et Amaryl, l'air incroyablement juvénile, penchés sur leurs ordinateurs. Il y avait même un portrait d'Eto Demerzel. Seldon regrettait son vieil ami et la sécurité qu'il avait connue avant sa disparition. L'empereur Cléon n'apparaissait nulle part. Ce n'était pas faute de posséder des hologrammes de lui, mais il n'était pas prudent sous le régime de la junte de trop rappeler le passé impérial. Tous ces témoignages d'admiration s'accumulaient et débordaient, remplissant salle après salle, bâtiment après bâtiment. On avait pris le temps de convertir l'université entière en une exposition comme jamais Seldon n'en avait vu ou même simplement imaginé. On avait été jusqu'à éteindre l'éclairage des dômes pour produire une nuit artificielle au milieu de laquelle l'université scintillerait durant 3 jours.
« 3 jours ?»
fit Seldon, mi-impressionné, mi-horrifié. « 3 jours ?» confirma Dors Venabili en hochant la tête. « L'université a refusé d'envisager moins. » « Et la dépense ?»«
Et le travail ?»
dit Seldon en fronçant les sourcils. « Les dépenses sont minimes au regard des services que tu as rendus à l'université, et tous ceux qui ont participé à l'installation l'ont fait bénévolement. Ce sont les étudiants qui se sont chargés de tout. » Une vue aérienne de l'université apparaissait maintenant, et Seldon contempla le panorama en laissant échapper un sourire. « Tu es content ?» dit Dors. « Tu maugrais depuis des mois comme quoi devenir un vieillard mérite tout sauf une fête. Et regarde-toi maintenant. » « Eh bien, j'admets que ça me flatte. Je n'imaginais pas qu'il ferait une chose pareille. Pourquoi pas ?»« Tu es une idole, Harry. Le monde entier, l'Empire entier, te connaît. »«
Absolument pas !»
dit Seldon en secouant la tête avec vigueur. « Il n'y en a pas un sur 1 milliard qui connaisse quoi que ce soit sur moi. Et je ne parle pas de la psychohistoire. Personne en dehors du projet n'a la moindre idée de son fonctionnement. Et au sein du projet, ce n'est guère mieux. »«
Peu importe, Harry. C'est quand même toi.
Les quadrillions de personnes qui ignorent tout de toi ou de tes travaux savent toutefois qu'Harry Seldon est le plus grand mathématicien de l'Empire. »«
Eh bien, » dit Seldon en regardant autour de lui. C'est effectivement l'impression qu'il me donne.
Mais 3 jours et 3 nuits, ils vont tout me ficher en l'air.
Non, aucun risque. Toutes les archives ont été mises à l'abri. Les ordinateurs et le reste de l'équipement sont sous clé. Les étudiants ont organisé une véritable milice pour éviter tout dégât matériel.
Tu as veillé à tout cela, n'est-ce pas, Dors ? Dit Seldon en lui souriant tendrement. Nous étions un certain nombre. Je ne suis pas la seule à remercier. Ton collègue Tamwild de Sorbe a fait preuve d'un dévouement incroyable. Seldon grimaça.
Qu'est-ce que tu as contre de Sorbe ?
Il n'arrête pas de m'appeler maestro.
Quel crime impardonnable !
Dit Dors en secouant la tête. Seldon ignora le sarcasme.
Et il est jeune.
Il aggrave son cas. Écoute, Harry, il va falloir que tu apprennes à vieillir avec grâce. Et pour commencer, tu vas déjà leur montrer que tu es content. Cela fera plaisir à tout le monde.
Tu ne peux quand même pas leur refuser ça.
Allez, montre-toi un peu. Ne reste pas caché ici avec moi. Salue tes amis, souris. Enquière-toi de leur santé. Et souviens-toi qu'à l'issue du banquet, tu auras un discours à prononcer.
Je déteste les banquets et je déteste encore plus les discours.
Il faudra quand même y passer.
Allez, remue-toi.
Seldon poussa un énorme soupir et s'exécuta. Sa silhouette en imposait quand il passa sous la voûte d'accès à la salle principale. Disparut la volumineuse toge de premier ministre d'antan, tout comme les vêtements de style héliconien qu'il affectionnait dans sa jeunesse. Aujourd'hui, Seldon portait une tenue conforme à la dignité de son statut. Pantalon droit aux plis impeccables et tunique arborant à la place du cœur un insigne brodé au fil d'argent. Projet Seldon de psychohistoire à l'université de Strilling, flamboyant comme une balise sur le gris titane strict de l'étoffe.
Les yeux de Seldon pétillaient dans son visage marqué par les stigmates de l'âge. 60 années que les rides trahissaient plus que les cheveux blancs. Il entra dans la salle réservée aux enfants. On avait entièrement dégagé la pièce, ne laissant que les tréteaux du buffet. Les gamins se précipitèrent sur lui dès qu'ils le virent. Seldon essaya d'échapper à l'étreinte de leurs doigts. « Attendez, attendez, mes enfants. Reculez-vous un peu. » Il sortit de sa poche un petit robot informatisé qu'il posa par terre. Dans un empire sans robots, un tel objet avait de quoi provoquer l'émerveillement. Il avait la forme d'un petit animal à fourrure, mais il pouvait se transformer soudainement en autre chose, provoquant à chaque fois les éclats de rire des gosses. « Observez-le, » dit Seldon, « et jouez avec. Faites attention à ne pas le casser. Tout à l'heure, il y en aura un pour chacun de vous. » Il se glissa dans le couloir qui conduisait à la salle principale et se rendit compte que Vanda l'avait suivi.
« Bon papa !»
Vanda était différente des autres enfants. Il se pencha et la souleva dans les airs, la retourna, la reposa. « Est-ce que tu t'amuses bien, Vanda ?»«
Oui, mais n'entre pas dans cette pièce. »«
Pourquoi pas, Vanda ?»« C'est mon bureau, c'est là que je travaille. »«
C'est là que j'ai fait mon méchant rêve. » »«
Je sais, Vanda. Mais c'est fini maintenant. N'est-ce pas ?» Il hésita avant d'emmener sa petite fille vers l'une des chaises alignées dans la galerie. Il s'y assit et la mit sur ses genoux. « Vanda, commença-t-il, es-tu sûr que c'était un rêve ?»«
Je crois. »«
Est-ce que tu dormais vraiment ?»«
J'ai l'impression que oui. »
Elle paraissait mal à l'aise pour en parler et Seldon décida de laisser tomber. Il était inutile d'insister. Enfin, rêve ou pas, il y avait deux hommes. Et ils ont parlé de mort en donnant des parts de sorbet, c'est cela ? Vanda acquiesça avec réticence. « Es-tu sûr qu'ils ont dit parts de sorbet ?» Nouveau signe de tête affirmatif. « N'aurait-il pas dit autre chose que tu aurais confondu avec le mot sorbet ?»«
C'est parts de sorbet qu'ils ont dit. »
Seldon dut s'en contenter. « Eh bien, file. Et amuse-toi bien, Vanda. Ne pense plus à ton rêve. »«
Très bien, bon papa. »
Elle se dérida aussitôt et fonça retrouver les festivités. Seldon se mit à la recherche de Manella. Il lui fallut un temps extraordinairement long pour la retrouver, car à chaque pas, on l'arrêtait pour le saluer et converser avec lui. Finalement, il l'aperçut au loin, marmonnant des « Pardon, excusez-moi, il faut que je… Pardon ». Il réussit à se frayer un passage parmi les convives. « Manella !» dit-il en l'attirant à l'écart sans cesser de sourire machinalement dans toutes les directions.
« Oui, Harry ?»
dit-elle.
« Un problème ?»«
C'est le rêve de Vanda. Ne me dites pas qu'elle en parle encore. » Il continue à la tracasser. « Écoute, nous avons des sorbets au buffet, n'est-ce pas ?»« Bien sûr, les gosses les adorent. » Je les ai parfumés avec 2 douzaines de boutons de fleurs mycogéniennes. Ils sont servis dans des petites coupes de formes variées et les enfants les goûtent successivement pour voir lequel est le meilleur. Les adultes en ont mangé également, moi aussi. Pourquoi n'y goûtez-vous pas, Harry? Ils sont délicieux. Je réfléchissais. Si ce n'était pas un rêve, si l'enfant a bien entendu 2 hommes parler de mort en donnant ses parts de sorbet aux siens. Il s'interrompit comme honteux de poursuivre. « Êtes-vous en train de me dire que quelqu'un aurait empoisonné les sorbets? C'est ridicule. Alors qu'il est, tous les invités réunis ici seraient malades ou mourants. »«
Je sais. »
grommela Seldon, « je sais. » Il repartit et faillit ne pas voir Dorse en la dépassant. Elle le saisit par le coude.
« Pourquoi fais-tu cette tête ? »
fit-elle. « Tu as l'air préoccupé. » « Je pensais aux parts de sorbet de Vanda. Moi aussi. Mais ça n'a rien donné jusqu'ici. » « Je ne peux m'empêcher de songer à l'éventualité d'un empoisonnement. Ne t'inquiète pas, je peux t'assurer que le moindre mets servi au buffet a subi un contrôle moléculaire. Je sais que tu mettras cela sur le compte de ma paranoïa habituelle, mais ma tâche est de te préserver, et je ne peux pas faire autrement. Et tout est pas la moindre trace de poison, je te le garantis. » Seldon sourit. « À la bonne heure. Me voilà soulagé. Certes, je ne pensais pas vraiment que… « Espérons que non, » fit Dorse sèchement. « Ce que je viens d'apprendre me préoccupe bien plus que cette histoire de poison. Tu dois rencontrer ce monstre de Thénard d'ici à quelques jours. Ne le traite pas de monstre, Dorse. Sois prudente. Des oreilles, peut-être ennemies, nous écoutent. Dorse baissa aussitôt la voix. Je suppose que tu as raison. Regarde tous ces visages souriants autour de toi. Qui sait lequel de nos amis s'empressera de rapporter au grand chef et à ses hommes de main tous les détails de la soirée? Ah, les humains! Après tant de milliers de siècles, songer qu'une telle vilainie puisse encore s'exercer, tout me semble si vain. Pourtant, je ne néglige pas le mal qu'on peut te faire. C'est bien pour ça que je dois t'accompagner, Harry. Impossible, Dorse. Cela ne ferait que me compliquer la tâche. J'irai seul. Et je n'aurai pas de problème. Tu ne sauras pas comment t'y prendre avec le général. Seldon parut grave. Et toi? Tu saurais? On croirait entendre de Sorbe. Lui aussi, il est convaincu que je suis un vieil imbécile impuissant. Lui aussi, il veut m'accompagner, ou plutôt y aller à ma place. Je me demande combien de gens à Trentor ont hâte de prendre ma place, ajouta-t-il avec un sarcasme évident. Des douzaines? Des millions ?